Hello, moi c'est Doris. Bienvenue sur mon podcast Nouveau Départ. Nouveau Départ, c'est le podcast où je vais à la rencontre des personnes qui ont pris un virage à 180 ou qui ont un parcours de vie atypique et qui ont décidé d'entreprendre. Aujourd'hui, je vous partage l'histoire de Guillaume. Guillaume a non seulement quitté l'Est pour l'Ouest de la France, mais aussi l'informatique pour une activité qui n'a aujourd'hui plus rien à voir. Lassé de brasser de l'argent et de nager dans le virtuel, il s'est laissé porter par les rencontres de la vie. Il a remplacé ses écrans par une boguette et des bottes. Intriguant, non ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous donne rendez-vous dans un coin de paradis en Vendée, sur l'île de Noirmoutier. Allez, c'est parti !
Bonjour Guillaume, je suis très contente de t'accueillir sur ce podcast, au vu notamment de ton parcours qui est assez atypique. Et du coup, pour commencer, je te propose juste de te présenter, de dire qui tu es, ce que tu fais et où est-ce que tu vis.
D'accord, moi je suis donc Guillaume, je suis saunier sur l'île de Noirmoutier, sur la commune de Lépine. Je fais ça depuis un an, j'habite encore sur le continent, pour l'instant, entre Nantes et Pornic. Et je viens à la base de Strasbourg. J'étais jusqu'à l'année dernière dans l'informatique, en tout cas dans le design de services, d'interface. Et puis voilà, un changement tout frais.
Ok, super. Donc je te propose de remonter plus loin en tout cas dans ton parcours. Quand tu étais enfant, est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire ?
Ah oui, depuis que je suis gamin, je dessine. J'ai tout le temps eu un crayon en main. Et mon rêve le plus grand, c'était de devenir dessinateur de bande dessinée. Quand on est enfant, on imagine forcément qu'on va passer nos journées à dessiner des petits bonshommes. Ça a marché un petit moment. J'ai même sorti une bande dessinée, dont je tairai le nom parce que j'en ai honte. J'en ai sorti une, mais je devais être au lycée, fin du lycée. Mais du coup, même encore au lycée, je voulais vraiment faire ça.
Okay.
C'était un objectif. Et le bac, finalement, ça m'a pas super tenté. J'étais très bon à l'école jusqu'à terminale où ça commençait à devenir flou. J'ai toujours été très scientifique, très mathématique, j'adore ça. Mais du coup, il y avait une incohérence avec ce que j'aimais faire vraiment. Donc je m'y retrouvais pas vraiment, j'ai un peu décroché, on peut le dire.
Ouais.
Je me suis un peu raté, même au bac. Plutôt que de le recommencer, j'ai fait... un certificat de capacité en transport routier.
Ok.
Pour voir.
Ouais, d'accord.
Il fallait faire quelque chose, ma mère m'a dit non, tu vas pas rester à la maison. Et puis, pourquoi pas, transport routier. J'ai grandi dans le garage avec mon frère qui était mécano. Donc les voitures, les bricolages, les camions. Je baignais dedans, j'aime toujours. Mais du coup, j'ai fait une année où j'ai fait cette certification. C'est tombé à l'eau, il y avait quelques petits projets vagues de transport, de choses comme ça. Mais on faisait ça avec ma sœur pour trouver une occupation et pas rester à la maison. Donc on a fait ça, et puis au bout d'un an, il fallait quand même se remuer un petit peu, et j'ai trouvé une école de graphisme,
okay.
Design publicitaire. Je savais pas trop, hein, ça permettait de retourner dans le dessin. Je suis parti de Mulhouse, dans ma vallée de Tann, toute perdue de la campagne, à la grande ville qu'est Strasbourg.
Oui.
Une très jolie ville, hein. Je t'invite à y aller.
Oui.
Je suis parti à Strasbourg dans cette école de dessin. J'ai fait une année de prépa, une année en graphisme publicitaire.
Okay.
C'est là où on se dit que faire des petits bonhommes, ça n'a pas vraiment
ouais.
payé. Et donc, je me suis dirigé vers le graphisme pub, vraiment à publicité, print, papier, photo, retouche photo, choses comme ça. Très sympa. Et là, je parle de 1999. Donc, peu d'informatique. C'était la fin de la publicité où on découpait les textes avec des ciseaux. C'était le début des Macintosh, les toutes premières versions de Photoshop. Une découverte, Photoshop, InDesign, tout ça. Et je me suis dirigé dans une spécialisation web. À l'époque, il n'y avait pas de formation pour devenir web designer. Et puis un web designer, à l'époque, ça voulait en faire rien. Ensuite, ça donnait envie. Mais à la fin de l'année, éclatement de la bulle Internet, un web designer, quand j'ai terminé mes études, gagnait le SMIC. Mais voilà, en tout cas, je suis rentré dans le vrai monde du vrai travail. Avec ça, je partais du dessin. Et puis, je me suis spécialisé dans la pub. puis dans le web. Donc j'ai trouvé mon premier job une semaine après la fin des cours.
Ok.
Et je suis resté 11 ans. Donc j'ai commencé, on était 3. Et ben, comme je disais, fin de la bulle internet, donc toutes les boîtes coulaient et on a repris globalement tous les clients. Et ben, j'ai monté les échelons du coup très très vite parce que okay. La boîte grossissait à vue d'œil. Et je suis passé de web design. Alors j'étais webmaster, ça n'existe plus hein, parce que même c'était le mec à tout faire. Je suis passé web designer, puis directeur artistique grand compte et ainsi de suite. À la fin, on était 30-35. Dans beaux locaux, tout ça, c'était devenu une boîte super sympa. Moi, ma vie s'améliorait en même temps que la boîte grossissait. Et puis, on a atteint un moment où c'est devenu une vraie boîte avec beaucoup, beaucoup d'argent brassé. Mm. Et où j'ai vu des collègues se faire virer pour 50 balles d'augmentation, choses comme ça. Donc, petit décrochage, c'était plus aussi rose qu'au début. Et puis, un changement de boîte, je suis reparti dans une autre entreprise où là, c'est con, le patron roulait en Peugeot, pas en Porsche, ça changeait la donne. Et du coup, rebelote, là j'ai pris ma place dans un pôle de graphisme créa dans une grosse boîte de développement.
Ok.
Donc c'était un peu moi l'esprit frais dedans de la boîte et j'ai découvert vraiment un monde du web très 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 rigide. Okay. Très structuré, très propre. J'ai adoré ça. Des clients absolument abominables. Pour faire un site, on était jusqu'à 5-6 ans. Des gros, gros projets bancaires, des choses comme ça. Et j'ai vraiment pris mon pied dans ce boulot. Donc, j'ai d'ailleurs fait des conférences sur comment apprécier de bosser pour des clients horribles, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, j'en étais conscient et j'ai kiffé. J'ai fait 10 ans dans cette boîte-là. La boîte grossissait aussi. On a ouvert une agence à Paris, une à Bordeaux, une chose comme ça. Et puis, on a racheté d'autres boîtes. C'est très sympa. On avait des projets de plus en plus gros. Mais du coup, moi qui étais dans le design, des projets de plus en plus gros, ça voulait dire genre 300 jours de développement. Mais moi, ma partie de 10 jours de design, j'avais plus rien à faire pendant 290 jours. Même si on avait 3, 4, 5 projets en même temps, les projets devenaient tellement gros que moi, en pourcentage de charge de travail, ça représentait de moins en moins. Du coup, petit à petit, j'ai dû licencier les gars de mon équipe. J'ai vu les gars partir. J'ai dû, les gens qui étaient en stage, finalement, on les gardait plus, des choses comme ça, parce qu'il y avait, on avait du boulot, mais on se tournait les pouces. Finalement, on pouvait étaler le boulot sur un an, deux ans. Donc, petit à petit, j'ai vu l'équipe se réduire. Puis, un jour, je vois mon patron, je dis, il n'y a plus que moi, on fait quoi? On s'est séparés comme ça. C'est là que j'ai commencé à penser à quitter Strasbourg.
D'accord. Donc là, on est en quelle année?
On est en 2017-2018.
Ok, d'accord.
Comme ça.
Ouais.
Ouais, 20 ans après,
ouais.
Le 99, c'est cohérent. Ça se tient. De cette boîte-là, du coup, j'ai rencontré ma femme dans la boîte que j'ai quittée d'avant.
D'accord.
C'était ma stagiaire. Autant dire que j'ai fait. Ça m'a fait une très très bonne réputation.
Ouais, excellent.
J'ai plus jamais eu de stagiaire après. J'ai rencontré ma femme dans la première boîte où j'avais bossé. Et on a toujours bossé ensemble. Et elle m'a fait découvrir une ville dans laquelle elle partait tous les ans en vacances depuis qu'elle est gamine avec sa grand-mère, qui était Dinard.
En Bretagne.
Et on m'a mis emmené, j'ai découvert Dinard, Saint-Malo, ce triangle là-haut, Rennes, Saint-Malo. J'en suis tombé red dingue. Tous les ans, on y allait, on fait grandir les enfants là-bas aussi. Mmh. Et quand est venu l'heure de partir de Strasbourg, mon patron fait bon, tu veux faire quoi? On va t'accompagner, tout ça, parce qu'on n'était pas fâché. Hein. J'ai dit, trouve-moi un poste, soit en Suisse, soit en Bretagne. Ben, je veux plus la tâche, j'avais fait le tour, autant c'est une région magnifique. Mais ça fait, entre Strasbourg et Mulhouse, il y a 100 km, et puis en largeur, on est vite en Allemagne, c'est joli.
Oui, oui.
Les Vosges, bref. J'avais fait le tour. Non, j'ai pas dit bref, les Vosges, c'est pas très joli, mais
c'est très joli, ça.
On est un peu enclavé, et puis j'avais vraiment fait le tour de tout ça. Donc la Suisse, parce qu'on y va aussi, c'est très joli, c'est chouette. Puis j'ai quelques amis qui y sont. Et puis la Bretagne, parce que c'était l'endroit où on se disait de plus en plus souvent en partant à la fin des vacances, c'est de plus en plus dur de partir. C'est que peut-être il est temps qu'on pense ça autrement. Et quand l'opportunité s'est faite, Mathilde avait déjà son entreprise, donc elle était mobile. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion. On m'a trouvé un poste, on m'a proposé deux postes, un à Vannes, qui se rapproche un petit peu plus de ce que je voulais, et un à Nantes. Je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas si je pouvais vraiment le placer sur une carte.
Ah oui, d'accord.
On n'en a jamais parlé.
Ouais, ouais, ouais.
Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai pris Nantes. Je me suis dit, bah, tiens, qui va pas connaître.
Autant
ça
y aller.
Découvrir un peu plus. Vu que je connais la Bretagne, allez, je vais découvrir la Loire inférieure. Et me voilà, mon patron de l'époque me loue à mon futur employeur pendant 6 semaines.
Okay.
Comme ça, je gardais mon CDI à Strasbourg,
ouais.
Si jamais ça passait pas.
Ouais.
Ça fait pas déplacer toute la famille, prendre des risques.
Oui, c'est ça. Donc là, tu pars tout seul.
Je pars tout seul.
Ouais.
Et vu que c'est de la régie, il n'y a pas de gros contrat de travail, c'est une prestation de service. Du coup, il me dit le jeudi, tiens, on t'a trouvé une boîte, c'est un client qu'on a là-bas, qui est intéressé, tu pars lundi. Pour 6 semaines, et puis tu reviens ou pas, quoi.
Ouais, ouais.
Donc j'ai fait des bagages, et puis on a trouvé une location en urgence, parce que Nantes, forcément, c'est Saint-Herblain. Donc trouver une location de 6 semaines du jour au lendemain, c'était pas évident. Du coup, je me suis retrouvé à 28 km de mon boulot, pas loin à la campagne, mais pour un mec qui habite en ville, c'est le bout du monde. Et je me retrouve à Rouens, petit village pile entre Saint-Brévin et Nantes. Et je me souviens, j'arrive dans la cure de Rouens, une énorme bâtisse ancienne du 19e qui était coupée en petits appartements. Et j'ai un truc sous les combles, un grenier, 20 mètres carrés, tout petit, tout, ça craque de partout, il y a de la poussière. Mais le premier matin, j'ouvre les volets et je suis en hauteur, et en contrebas, il y a le marais de Rouens qui est,
ouais.
Qui est tout dans la brume, il y a des cigognes qui passent, les cigognes.
Trop beau.
J'ouvre les volets et je me dis, j'ai même pas vu la boîte, hein. Enfin, je suis passé le matin pour prendre mon contrat, et puis le matin, j'ouvre les volets, je me dis, je pars plus. C'est Rouen, c'est nulle part ailleurs. Et puis j'ai dit ça à ma femme, elle est venue au bout des 6 semaines. On a trouvé, on avait une relocation payée par la boîte,
okay.
Une agence qui venait pour nous aider à trouver une maison.
Okay.
On cherchait un petit peu partout, parce que ça nous faisait mal au cœur de ne pas être dans Rouen. C'est difficile de trouver une maison, quasi impossible. Et coup de bol, le dernier jour, on est prêt à tout laisser tomber, à retourner à Strasbourg parce qu'on se dit on va jamais trouver une baraque. Un coup de fil, une baraque qui se libère dans Rouen. Et je suis plus parti. On a signé. Pareil, comme un coup de chance où les gens ne demandent pas un contrat de travail, ils oublient de demander la caution.
Ouais,
un bon feeling. Un bon
oui,
match,
oui, c'est
quoi.
Ça.
Et on s'est dit ok, on reste. Quoi.
Trop bien.
Et on a emmené femmes et enfants.
Les enfants, tout ça, ouais.
Et puis voilà, Neuvla, on est arrivé en Loire-Atlantique il y a 5 ans maintenant. Ce qui ne m'emmène pas encore à Noirmoutier.
Non, toujours voilà. Pas.
tu voulais remonter loin. Mais voilà, donc on trouve une maison, on achète
okay.
Un mois après.
Okay.
Dans ce village toujours, où clairement c'est la première fois que je m'investis. Je me mets dans, sur les listes électorales, des choses comme ça. C'est
ah ouais,
tout,
ouais.
Tout mon genre, quoi. Au
okay.
bout d'un an, je suis redingue de ce village, de la vie, de l'animation. Et ma femme, quand on est arrivé dans Rouen, elle devait refaire un petit peu son réseau, sa vie,
oui.
Tout ça, donc elle a un petit peu de temps. Elle se promène, je lui dis, moi je fais en agence toute la journée, donc elle prend sa voiture et puis elle découvre un petit peu
ouais.
Les environs. Et un jour, elle m'appelle, je suis au boulot, et elle fait, Guillaume, je viens de voir passer un panneau Vendée, je suis perdu. Je fais, écoute, tu continues tout droit, tu trouveras un panneau, non, tu fais tout droit. Elle continue tout droit, elle me rappelle une heure après. Elle fait bon, Guillaume, j'ai passé un pont, il n'y a plus de tout droit, je suis au bout, il y a de l'eau partout. Elle était à l'herbodière ici. Elle fait bon, je suis paumé, hein, clairement. Par contre, c'est super joli, faut que tu viennes voir. Et elle me fait découvrir ça, on vient une fois par mois, on vient sur Noirmoutier, on découvre la plage de la Fosse,
okay.
Épines, ça c'est magnifique.
Donc, comme quoi ça a du bon de se perdre.
Ça a du bon de se perdre, il faut découvrir les environs parce qu'elle tournait que au GPS. Hein.
Ouais.
Sans GPS, elle ne trouvait pas le super rue.
Ouais.
Village. Quoi.
Bah oui, en pleine campagne.
Et du coup, on dit non, on arrête le GPS et puis on va se perdre dans la région. Et c'est comme ça qu'on a découvert Noirmoutier. Et puis on venait une fois par mois à peu près, comme tous les. En bon nantais.
Oui, c'est ça. Exactement.
Et puis finalement, on vient tous les 15 jours, puis toutes les semaines, et puis au bout d'un moment, on arrive à poser des congés parce qu'il fait beau, et que tu dis, non, je ne veux pas ne pas voir Noirmoutier une semaine. Quoi. Et clairement, un coup de cœur.
Ouais.
Coup de cœur.
Ouais.
Et puis, et c'est un univers tellement, tellement différent, c'est tellement des paysans. Mm. Mais après, comme j'en parlais avant qu'on commence, je passe le pont, je suis toujours émerveillé. La mer à gauche, la mer à droite, non, à partir du moment où j'arrive sur l'île, je pétille, quoi. Tous les endroits qui sont magnifiques, et puis il y a... On en découvre toujours. En tant que saunier, je passe par des petits chemins où jamais personne n'aurait l'idée de passer par peur de s'engourber. Ils ont raison. mais du coup, on découvre toujours à chaque virage, à chaque toutes les 10 minutes, il y a un endroit où on se dit tiens, j'ai jamais vu ça. Après, je connaissais Noirmoutier pour ses plages, pour son soleil, pour son climat, pour la détente. Oui. Là, depuis un an, je découvre Noirmoutier l'hiver, mais je découvre Noirmoutier en tant qu'il vient. Du coup, et la communauté, les différentes confréries, les patatou, les pêchous, les saunier, ça. Et du coup, j'avais un peu peur de ça, surtout quand t'arrives sur une île, tu viens pas de là, surtout que t'es alsacien, t'as rien à voir avec, avec les huîtres ou les couettes, quoi. Et maintenant, j'ai été accepté par le travail.
Alors, attends, du coup, parce que donc, à ce moment-là, donc, ta femme découvre Noirmoutier, elle est perdue à l'Herbaudière.
Donc, ça, c'est pour le coup de cœur Noirmoutier, le coup de cœur de la région, parce que j'étais amoureux de Rouen, où j'habite toujours, et j'aurai toujours des attaches. Et ce coup de cœur de Noirmoutier. Donc, comment...
parce que là, tu es toujours en agence.
Je suis toujours en agence à Saint-Herblain, avec mes... 4 heures de route quotidienne avec les bouchons, hein, forcément. J'ai eu un déclic dans cette boîte qui était super sympa, où j'ai découvert l'UX Design, où je faisais des ateliers. Je bossais avec ma femme quasi sur le même poste. Moi, j'étais UX Designer, je pilotais la partie créa, design, intégration. Et Mathilde était product owner, des choses qui te parleront plus à toi.
Ouais.
Et donc, on partait animer des ateliers ensemble chez les clients, on pilotait quasi seul les projets. C'était un moment génial. Et puis, elle s'est fait mettre dehors. C'est tout con. Après, je comprends, il y a des enjeux dans les entreprises, des choses comme ça. Mais ça ne s'est pas fait de la façon où moi, je l'ai fait quand j'ai dû faire partir des collaborateurs. Je me suis rendu compte que les belles boîtes qui vendent des belles paroles, c'est souvent surtout les... que par définition, leur job, c'est de vendre des gens. Moi, je ne m'y retrouvais pas. J'ai atteint les 40 ans et je commençais à avoir une autre vision des choses. Plus aussi carriériste que j'ai pu l'avoir, ça m'a permis d'arriver là. Mais voilà, j'étais plus sur de l'humain, sur des relations. J'ai 3 enfants, ma femme. Et ça ne s'est pas fait comme je voulais. J'ai du coup un petit peu creusé et je me suis rendu compte que y a beaucoup de choses qui n'allaient pas humainement dans ce genre, qui n'allaient pas, non, dans lesquelles je ne me reconnaissais pas. Sans être bobo, cool, machin, c'est juste respecter quelques valeurs qui me tiennent à cœur. Et je ne les retrouvais pas, donc je suis parti. J'ai suivi ma femme en fait, j'ai trouvé un autre poste. Je suis parti pendant le Covid. Donc je suis parti à la maison, je me suis occupé des enfants, de la maison, et puis j'avais mon salaire, c'était cool, mais malgré ça, j'ai dit stop, on brasse des humains, des choses comme ça me plaisait pas. Donc j'ai trouvé un autre poste, en gestion de projet, plutôt cool, mais le poste pour lequel j'étais pris est tombé à l'eau. Ça s'est transformé en gestion de projet technique, c'était très très développement, très... on m'appelait pour dire il y a un serveur qui est tombé, il y a tout qui a craché, faut que tu gères. J'avais une équipe que j'ai jamais rencontrée, il y avait une nana de Bordeaux, et après c'était des développeurs en Ukraine ou en Russie. Du coup, période un peu difficile, moi je bossais de chez moi, c'était cool, et puis je me suis dit ça va pas, je vais monter dans la boîte de ma femme. Où là je suis passé directement directeur général. On était deux, elle était présidente, j'étais DG. Mais voilà, on a fait tourner cette boîte à deux, ça marchait plutôt bien. On choquait des beaux contrats et arrive un coup de fil où on me dit tiens, on aimerait te faire bosser pour gérer toutes les agences bancaires Grand Ouest. Donc un beau projet, un beau contrat à la clé. Et il y avait pour ça une sorte de test jeu de rôle en ligne. C'était un cas concret de gestion de projet, gestion financière. Je passe le truc avec une dizaine d'autres concurrents, entre guillemets, postulent. Et ça se fait sur 2-3 jours. tout en visio évidemment. À la fin du projet, un jour après, un coup de fil, Guillaume, ça a été génial, on prend, dès que le projet se lance, t'es dessus. Et là, je me dis, non, en fait, non. Les 3 jours que j'ai passé à vendre un truc, au final, dans l'exercice, je faisais vendre des ateliers aux clients pour qu'ils sachent quoi faire exactement pour répondre à une problématique. C'était l'objectif, c'était mon job. Simplifier que le client trouve ses solutions et un truc qui fonctionne. Mais j'ai passé 3 jours, j'ai facturé au client 50-80 000 euros pour un truc au bout d'une demi-heure, je savais où on allait.
D'accord.
J'aurais pu lui dire.
Ouais.
Non, toi, c'est ce qu'il te faut, ta réponse, c'est tu vas faire ça, avec 30 ans derrière, je sais comment ça marche. Et le client, c'est ce qu'il a trouvé à la fin. Mais ça lui a coûté 80 000 balles et 3 jours d'atelier. Et là, je me suis dit, non, je brasse des millions, mais c'est du vent, quoi. C'est pas correct. Je peux pas vendre 3 jours à un client où pour 500 balles, il y aura la même chose. Et j'ai dit non, j'arrête. On a décoté 2-3 contrats géniaux. Donc, Mathilde, tu reprends les rênes. De toute façon, c'est toi qui gères, mieux que moi. En plus, elle est meilleure que moi. Et puis, j'arrête. Je sais pas ce que je fais. Et puis, un week-end, Noirmoutier. Et il y a le marché à Barbade, je m'arrête. Et je rencontre une saunière qui tient son stand. Et puis, on achète du sel parce qu'on a besoin de sel à la maison, c'est tout bête. Et cette très gentille dame me dit que c'est sa dernière année, que c'est un métier plutôt sympa. J'avais du temps, ce jour-là, vu que je travaillais plus. Je commençais à entamer la discussion, comment ça marche, comment on fait du sel, tout ça, en touriste, quoi. Et puis, je me rends compte que c'est un vrai job, qu'elle en vit, qu'elle arrête parce qu'elle part en retraite. J'ai toujours dit en rigolant qu'un jour j'irai élever des chèvres. Je dis ça pour rigoler.
Mais
ma femme me le rappelle chaque semaine, elle dit de toute façon, toi t'as tout plaqué, tu vas finir avec tes chèvres. Et on discute avec cette dame bien une heure et demie sur le marché. C'était fin du marché, elle avait du temps, il n'y avait pas grand monde. Une prise de conscience de ce job, et je me dis, Mathilde me dit, tu vois, plutôt que des chèvres, on va faire du sel. On rigole. Et on va rencontrer un type que j'avais rencontré une semaine avant, un rendez-vous pro dans le web, un truc comme ça, donc rien à voir. On va boire un café chez lui, il y a une maison en Noirmoutier. Et donc on y va, on va boire un café. Et il me passe le numéro d'un de ses meilleurs copains qui s'avère être saunier. Plutôt un saunier important dans le coin, donc marrant. Sur la même journée, ça vient 2 fois. Je me dis, on va se balader en ville, je vais aller voir la COP, à quoi ça ressemble, parce que j'entends parler de la coopérative, tout ça dans ces échanges. Donc Mathilde, elle va faire le marché à Noirmoutier, ou je sais plus ce qu'elle faisait avec les enfants. Je me dis, je fais un détour à pied, je vais voir la COP. J'entre dans l'entrepôt, alors normalement tu peux pas, ça reste une usine en quelque sorte. Et un cariste me dit, si tu veux des infos, va voir, je sais plus, Sylvie, Nathalie, je sais plus comment elle s'appelle. Et j'y vais, et en fait je dis, bonjour, je cherche, je donne le prénom de la dame, et du coup toutes les portes s'ouvrent quand t'as un prénom. Et ils sont persuadés que tu les connais, ou que t'as
que t'es du coin.
Et je me retrouve nez à nez avec la présidente. Et pareil, elle passe une demi-heure, trois quarts d'heure à me parler de comment ça se passe, tout ça. C'est pas possible en une journée.
Oui, c'est vrai, ça va vite là.
Je rencontre un saunier plutôt bien placé. Enfin, mon père, on me donne des contacts. Je rencontre la présidente. Allez, je creuse là-dedans, je vais voir. Donc, j'avais pas plus l'intention que ça. Je me dis, c'est un signe, j'y crois pas plus que ça. Mais je trouve ça marrant. J'y vais, j'ai rien d'autre à faire. Donc, je vais voir la communauté de communes. Je comprends que choper un marais, c'est mission impossible quand t'es pas déjà saigné, que t'as pas d'expérience. Je connaissais rien du tout.
Mais tu t'y intéresses quand même avec cette idée de dire, tiens, pourquoi pas moi, quoi.
Voilà. En fait, c'est, il y a peut-être un job sympa.
Ok.
En tout cas, un truc à découvrir.
Ouais, un truc à découvrir.
C'est une expérience ou même rencontrer, je sais pas, j'y vais, je sais même pas pourquoi. Ça devait être en septembre.
Donc, septembre 2021
2021, oui, c'est ça. On comprend rapidement que c'est quasi impossible de trouver un marais, de s'installer comme ça. Il y a une formation, mais il y a 2 ans de délai. Et puis, c'est pareil si tu n'as jamais travaillé dedans. Autant dire que c'est assez chaud. On parle tout de suite de la dotation jeune agriculteur souvenir parce que j'ai un an de trop.
Ok.
Donc, je me dis, ça le fait pas, mais j'appelle 2-3 personnes comme ça, des coups de fil, parce que j'ai du temps et que les gens sont tous sympas.
Ouais.
On se tutoie dans ce genre de métier, donc moi j'aime bien, c'est amusant, j'aime bien discuter avec les gens.
Ouais.
Donc je passe 2-3 coups de fil, et dans un coup de fil, on parle comme ça d'un nom. Je me dis, ben, je note sur le cahier, et puis ben, je cherche sur Google, et puis je tombe sur un numéro perso d'un type qui m'écoute un peu surpris. Qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que tu veux, quoi tu veux devenir soigné, t'es informaticien. Il me dit, ben, écoute, tu vas voir un gars que j'ai sur l'île, et puis tu le rencontres, et puis vous voyez ce que ça donne.
Okay.
Je rencontre Bruno, cet ancien paludier en retraite. Et puis ben moi j'arrive mon petit cabriolet noir, chaussures en cuir, maté dans talon, tu vois, et puis et j'arrive devant ce type à casquette trouée, et puis on l'appelle le pirate, c'est un vrai pirate. Et moi Mathilde en petite jupe, tout ça, ça fait bizarre, il sait des notes, et je sais pas pourquoi, et ben il m'écoute. Il me croit, et puis elle me dit, ben viens, je t'emmène voir un marais, et puis je fais le tour avec le pantalon et les chaussures toutes dégueulasses, du coup, parce qu'on est en septembre. Puis je commence à me dire, putain, c'est magnifique, quoi. J'étais jamais dans un... J'ai jamais passé la barrière d'un marais.
Ouais, vraiment rentré dedans. Ouais.
Et je connais rien du tout, et puis je l'écoute, il m'écoute. Et en partant, il me fait, ben écoute, si t'as le courage, dans un mois, il est à toi. Ah merde. Je m'y attendais pas à ça, quoi. Mais il y avait du boulot. C'était une étendue d'eau. Le marais, il marchait plus depuis presque un siècle. Enfin, ça doit faire 70 ans qu'il était abandonné.
Ah ouais.
Donc c'était un étang, machin. Et elle me dit, il y a du boulot, je te le cache pas. Ça va bosser dur l'hiver. Et puis, ouais. Ton seul outil, ça va être une pelle, quoi. Une pelle et des bottes. Et je pense que c'était un petit peu comme ça qu'elle allait se dire, bah non, elle va pas y aller.
Oui.
Qui a jamais
sorti
de son bureau. Et ben, je me suis dit, ben, allez, go.
Ouais.
Je sais pas pourquoi.
Toi, t'as pas eu de peur, de frein.
J'avais une heure de route.
Ouais.
Ma femme, mes enfants sont scolarisés là-bas. J'ai pas de logement ici.
Ouais. Oui, puis t'as jamais fait ça.
Ouais, ouais. Et lui, il me dit, ben, si t'as le courage, je t'apprends, quoi. Et puis je t'accompagne jusqu'au premier sel.
Ok.
Ben, il m'a offert ma première pelle 3 semaines après. Et puis ben voilà, j'étais au bout d'un mois, j'étais mes bottes enfoncées dans la base,
ouais.
Au milieu de la flotte, à retourner tout ça.
Qu'est-ce qui t'a donné envie à ce moment-là? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait dire j'y vais?
Ben, j'en ai aucune idée. En fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir peut-être m'être fait happer. Je me suis dit, tiens, il y a un truc cool à faire. J'ai pas vraiment réfléchi, mais ma femme m'a dit, tiens, c'est la première fois que tu fais un truc pour toi. Tu vois, d'habitude, je faisais toujours pour les enfants, je faisais toujours pour elle. Ils s'en fait jamais assez pour celle qu'on aime. mais c'est comme ça que je voyais les choses.
Ouais,
moi, je créais un foyer. Et puis là, elle m'a dit, ben, c'est un truc que toi, t'as envie de faire, vas-y. Et
okay.
Elle m'a vachement accompagné là-dedans. Je suis pas du genre à aller enfoncer les portes, à passer des coups de fil et tout comme ça. Elle me disait, ben non, t'as envie... Si t'as pas appelé 3 personnes en fin de journée, tu vas voir, ça va barder. Bah du coup, elle m'a dit, ben c'est effectivement un truc pour toi. On s'en fout, va voir quoi.
Ça, ouais.
Au pire, t'es au chômage. J'avais arrêté la boîte qui ça se passait pas super bien avec les Russes. Donc j'avais entre guillemets du budget. J'étais pas à zéro.
Oui, c'est ça.
Moitié moins que.
T'étais assez
avant.
Serein pour tester autre chose.
Donc on pouvait serrer un peu la ceinture pendant un an encore. Faire ça. Et donc ça m'a laissé le temps de construire ma saline. Ben, si jamais ça le faisait pas, ben, j'arrêtais. La saline, elle serait partie à quelqu'un d'autre. Il y en a sûrement plein d'autres qui veulent reprendre ça.
Ouais, c'était le côté vivre une expérience. En fait,
c'est ça.
Ouais.
J'aime bien découvrir des choses. Et je sais pas, ça m'a plu. C'est du terrassement, hein. C'est retourner des tonnes et des tonnes de terre, de vases, les pieds mouillés en hiver. Mais le cadre, quoi.
Ouais.
En hiver, t'as le lever du soleil, t'es déjà en train de bosser, tu vois. Tu vois le soleil qui se lève sur le marais. À 18h, tu vois le coucher du soleil sur l'océan, c'est un truc. Il y a pas une journée où je me suis dit, ah non, qu'est-ce que tu fais? Il y a une fois où l'eau a gelé. On était dedans, hein, en bottes. Et il y avait des cristaux qui se formaient autour des bottes. Mais même ce jour-là, je me suis pas dit, non, qu'est-ce que tu fais là, quoi? C'est pas. Je faisais quelque chose, pour le coup, de vrai. C'est con, mais j'ai toujours fait du virtuel. Toujours brassé. C'est du temps, des réunions. En fait, je vendais des réunions qui allaient refaire des réunions pour refaire de l'argent et refaire de l'argent.
Ouais.
Et là, en fin de journée, j'avais fait 10 mètres de vêtes ou de murets, de construction, de choses comme ça.
C'était concret,
tout le temps,
quoi.
Il y a quelque chose. Ça rejoint. Il y a un autre événement qui m'a poussé à faire ça. C'est quand j'étais au chômage,
Ben, j'ai un copain qui est pizzaïolo. Et oui, c'est con, mais ça n'a rien à voir avec ce que je faisais non plus. Mais quand j'ai arrêté mon job, il m'a dit ouais, tu t'ennuies, moi j'arrête mes tournées, je passe aux machines de vente de pizza, parce que c'est comme ça, c'est l'avenir de la pizza visiblement. Et donc il m'a dit ben, c'est ma dernière tournée en camion, viens, tu m'accompagnes, au moins tu verras ce que c'est, tu verras, c'est un moment cool. Et il m'a emmené avec lui à vendre des pizzas à Bouguenay. Et c'est la première fois où ben, on partait d'un bout de pâte. Et puis, 10 minutes après, ben, t'avais un billet de 10 balles dans, ouais, dans les mains, c'est ouais, tout con. Mais moi, je vendais, comme dit, des contrats à 5-6 millions. Ouais. J'ai jamais vu ce que ça apportait vraiment.
Ouais, d'accord.
Parce que ça restait tout du virtuel. Et ben non, là, en 10 minutes, c'est con, mais hop, t'avais de l'argent en main. Bon, je dis pas que tout reste dans la main, mais c'est la première fois où j'avais vraiment un travail concret. J'ai fait ma pizza, j'ai conduit mon camion, j'ai rencontré des clients, des vrais, oui, clients, pas des coups de fil, des mails, des trucs comme ça. Et il y avait vraiment un vrai échange.
Ouais, donc ce côté très palpable, manuel.
Je me suis dit, ben, c'est ça que je vais retrouver aussi en étant, okay, saunier, parce que il y a ce côté vente derrière. Saunier, c'est plein de jobs à la fois, ben, comme tous les entrepreneurs.
Ouais,
tu fais ta compta, tu fais ta vente, tu fais ta relation clientèle. Et là, c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est tout petit par rapport au gros budget, au gros client que j'avais avant où tu mettais 3 semaines pour signer un contrat. Bah là, c'est je passe devant un supermarché, je vois, oh, il est moche le sel qui vend, je vais voir le patron. Et puis bah, je discute avec, et ouais, puis il y a des feelings qui se font. Et du coup, ça paraît tout simple. Après, c'est le début aussi, je vivais pas encore que de ça, donc je le, ouais, prends un petit peu sûrement plus à la légère. Mais il y a ce côté vente, il y a ce côté construction aussi.
Okay.
Un an de construction pour refaire à sa ligne. C'était un an d'un métier que je ne connaissais pas du tout.
Ouais.
J'ai appris plein de choses. Mathilde m'a toujours dit, changer un interrupteur à la maison, t'en es incapable. qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Et bah non, on a fait 6000 mètres carrés de terre, on les a, ouais, élevés.
Tu te découvres aussi toi-même.
En fait, je ne me suis pas demandé si j'en étais capable. C'est un peu la solution, c'est un peu ce qui permet d'aller plus loin que ce qu'on imagine, c'est juste de ne pas imaginer. Simple, en vrai, quand je construisais la Seine fait 300 mètres de long, ben, y a un moment, ben, on construit le poids cindre, donc une sorte de trottoir qui fait donc toute la longueur de la Seine, deux fois, hein, il fait le tour complet.
Ouais.
Alors, je l'ai construit en reculant pour ne pas regarder ce qui restait à faire. Parce que sinon, tu te décourages, tu fais un mètre en une heure, enfin non, j'exagère. 10 minutes, un quart d'heure, tu fais un mètre, mais sur,
ouais,
300 mètres, dans le froid, dans le vent,
ouais, ouais,
c'est
ouais,
sur. Bon, on a mis peut-être un mois, plus d'un mois pour faire le tour.
Ouais.
Et ben, je l'ai fait en reculant, et je me suis dit, c'est peut-être ça la solution. C'est de pas regarder où tu vas, c'est regarde ce que tu es en train de construire, et tu es satisfait. Chaque soir, je me dis, tiens, t'as fait 10 mètres, t'as fait 20 mètres. Et du coup, je me suis jamais découragé. Parce,
ouais,
que j'étais toujours. Le soir, je me disais, tiens, j'ai construit ça, ce truc-là, ça a merdé, mais on a résolu, ouais, le problème. Mais Bruno me poussait bien au derrière, il me donnait quelques coups de pied des fois.
Donc au début, il était vraiment avec toi, t'accompagner tout le temps là, ouais.
Tous les jours, il me faisait passer mes CAP. Il me disait, ben là, t'as ton CAP poids cindre, quand j'ai fait mes 5 premiers mètres, en fait, t'as ton CAP. Vive, t'as ton CAP hier, les trucs comme ça. Et du coup, à chaque étape, il m'accompagnait et il a été là tous les jours. Et c'est aussi une chance, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui maîtrise et qui n'a pas d'enjeu dedans.
Mmh.
Lui, que je réussisse ou pas, ça lui changeait rien. Mais par contre, il avait le savoir, la connaissance, le temps. C'est je pense, indispensable d'être accompagné par quelqu'un. Sans une personne comme lui, j'aurais jamais réussi.
Ouais.
Avec toute la bonne volonté ou choses comme ça, il faut des rencontres pour pouvoir se lancer là-dedans. Mathilde m'a dit, on s'en fiche de l'argent, on sait que ça va être plus difficile, on fera avec.
Mm.
Le timing, la maison, parce qu'on sait que c'est une solution qui est difficile aussi.
Oui, oui, oui.
Bah on fera.
Ouais,
c'est pas grave,
ouais,
on s'en est toujours sorti. Y a rien d'irrémédiable, t'es pas en train de te jeter d'une falaise non plus. Quoi. Si jamais c'était pas viable, bah tant pis, tu reviens. T'as 20 ans de boîte derrière, même si t'as pas le même poste, tu referas autre chose.
Ouais,
pas
ouais,
grave, quoi.
Ouais.
Je mettais pas toute ma vie en jeu. Il n'y avait pas de gros budget non plus.
Mm-hmm.
C'est pas comme un autre agriculteur qui va devoir acheter un tracteur ou des locaux d'entreprise, tout ça.
Mm-hmm.
Pour l'instant,
Pour l'instant, moi, je fais mes bocaux chez moi dans le salon, je trie ma fleur devant la télé. Il n'y a pas d'investissement lourd. J'ai cette chance-là avec ce choix professionnel. Mais ça me permet de se dire, c'est pas grave, au pire, on perd un an, ce sera plus dur. Oui. Parce que, de toute façon, c'était déjà dur avec le chômage. Donc, go, juste aller tout droit, quoi.
Et alors, comment ça s'est passé cette première année en termes d'activité, de récolte
Dur.
Oui.
Non, mais c'est pas dur, c'est intense. En fait, il y a des ascenseurs émotionnels dans ce genre de truc. Le début était tellement dur parce qu'il y a eu des soucis. Quand tu remets en eau une machine qui n'a pas tourné depuis un siècle, forcément, ça casse. Et si c'était génial de construire tout ça, à un moment donné, t'ouvres le robinet et puis tu regardes si ce que t'as fait, c'est bon ou pas. C'est là que les punitions tombent. Les digues tombent surtout. Plus les gros orages en début de saison et choses comme ça, t'as les copains qui commencent. Cette année, c'était exceptionnel. Ils ont commencé en mai à récolter du sel et à réparer tout ce qui était à faire encore. J'ai commencé tout début juillet. J'ai tourné sur une demi-saison.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
Là, j'avais deux mois dans la figure pour démarrer. Mais ça a super bien démarré, par contre. Franchement, quand t'as les premiers grains de sel, tu te rends compte que c'est pas juste de la terre. C'est une vraie machine, c'est quelque chose qui a une vie, qui fonctionne. Donc, génial pour la construction, dramatique dans la mise en eau, et puis re-génial derrière. Et puis, re-dramatique, parce que tu te rends compte qu'on te dit, faire un œillet, allez, 10-20 minutes. Non, toi, tu mets une heure et demie, parce que c'est la première fois que tu fais ça de ta vie.
Ouais.
Et du coup, quand t'as 12 œillets, tu calcules, t'as 14 heures pour ramasser ton sel.
Ouais.
Juste le gros sel, pas la fleur, pas le tri, pas le séchage, pas le rangement. Donc, donc des journées difficiles dans l'organisation. Et puis tu découvres le rythme de l'eau, du soleil. J'étais vraiment novice. Et même, si j'avais très bon conseil de Matt Bruno et des autres sauniers que j'ai rencontrés. Parce que c'est vraiment des gens... ils te laissent pas... T'es accompagné sur l'île. Et pas forcément que des sauniers, mais des... Un restaurateur, un agriculteur, un ostréiculteur, ils viennent, ils t'accompagnent. Si t'as besoin d'un coup de main, il y a des gens qui sont là.
Oui, parce qu'on a la vision du saunier qui est assez seul et isolé dans son marais.
En fait, c'est une confrérie. Et même pas que dans les sauniers. Moi, pendant que je construisais, j'ai eu un coup de fil un jour, une nana que je connaissais pas, qui m'a dit: Guillaume, je suis passé devant ta saline, fais attention à ton dos, tu devrais te tenir un petit peu comme ça quand tu travailles avec ta boyette, avec ta pelle. Ça m'a paru bizarre sur le coup, mais t'es qui, c'est quoi? Mais en fait non, c'était
un vrai conseil,
de la bienveillance, réelle. Et elle attendait rien, elle a dit: fais gaffe, c'est vachement bien, vous bossez bien, vous avancez, c'est cool. Et voilà, elle m'a juste dit: tiens-toi plutôt sur le côté, machin, parce que tu vas te blesser. Du coup, malgré ces dures journées, tu t'améliores. Et là, en août, du coup, juillet, j'ai pataugé un petit peu. Et puis Bruno devait repartir à Guérande pour aider des copains paludiers. Il m'a montré. Et puis après, démerde-toi, il n'y a pas le choix. Au bout d'un moment, il ne peut pas me tenir la main jusqu'à la retraite. Donc, faut apprendre. Tu fais quelques erreurs, tu noies 2-3 fois. Et puis... Et puis ça marche, d'un coup tu capes le truc et puis tes œillets ils sont faits en 3 heures au lieu de 12 et puis après tu les fais en 2 heures et puis tu commences à prendre ton pied.
T'as des visites sur ton marais, des gens qui viennent.
J'avais pas de panneau, rien, et puis mon marais il ressemblait à une fin de chantier, quoi. Tu sais, quand le sel est là, t'arrêtes tout. Il y a des planches qui traînaient sur le côté, il y a de la terre encore qui n'a pas séché, les vêtements sont encore brutes, elles n'ont jamais été lissées, donc t'as le squelette de la saline. Et t'as des gens qui s'arrêtent quand même, 2-3 comme ça, et Mathilde me dit: écoute, moi je voulais pas faire de la vente directe, je me suis dit, il y a un négociant, il va me prendre le truc, puis c'est simple. Et en fait, il y a 2-3 personnes qui s'arrêtent. Et puis ils me disent: mettez donc un panneau. Mathilde me fait ça sur un bout de plainte un soir, un bout de plainte en forme de flèche, marque ici, sel récolté avec amour. Et ça fait 40 cm le truc, c'est tout petit. Accroché de travers sur un poteau, et d'un coup, il y a des gens qui s'arrêtent tous les jours. Et là, t'as un troisième métier qui vient. Là, j'étais constructeur, saunier, et puis t'es guide, vendeur, commercial. Et puis, c'est génial, t'as des gens, t'as des sourires tout le temps.
Ouais, pas de gens,
j'ai pas rencontré de gens bizarres. Les gens qui viennent à leur moitié sont tous les mieux, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai perdu les journées de production parce que j'ai passé 4 heures avec des gens à raconter ma vie à ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est des choses que j'aurais jamais eues en agence. J'étais ouvert avec mes clients à la fin. Quand t'es en frontal avec les clients, t'es obligé d'être sympa. Et les gens sont sympas, mais c'est tellement plus naturel. Je sais pas si c'est lié à l'agriculture, ou juste parce que c'est sain, c'est serein, on est dans un cadre super. Et du coup, là, t'as des gens qui viennent tous les jours et ils prennent pas grand-chose. Hein. Et puis, moi, je savais pas combien vendre mon sel, j'avais pas d'emballage, d'ailleurs, tu vois. Donc, les mecs, ils viennent, non, mais vous avez bien une vieille boîte de fromage, là, qui traîne, parce que j'avais pique-niqué sur le truc. Ils disent, non, mais mettez une poignée là-dessus, et puis, tenez, je vous file 5 balles. Je dis, ouais, ok, il va falloir peut-être que j'organise le truc, quoi. Parce que... Et du coup, tu te retrouves à chercher des sachets, à faire attention à la provenance de tes produits, des choses comme ça, et puis, c'est grisant.
Donc, vous avez créé une marque?
Ouais, la Saline des Châteaux.
Ok.
Qui est complètement propulsée par Mathilde, qui gère à fond les réseaux sociaux, et tout ça. Je lui ai donné mes codes de Facebook, d'Instagram,
ouais,
et tout,
ouais.
Et elle gère complètement. Et ça cartonne, en modération, on reste un tout petit truc. Hein. Si j'ai 100 abonnés, je ne sais pas combien j'en ai, mais pour moi, c'est le bout du monde. Mais moi, je dis que ça cartonne. Je remets un peu les doigts sur un clavier d'ordi parce que je développe le site. Mathilde m'a fait une maquette et du coup, je dis, mais qui va développer ça? Et regarde, elle fait, c'était quoi ton métier avant? Je dis, bon, d'accord. Donc j'ai fait ça jusqu'à 1h30 hier soir encore.
T'as du mal à retourner derrière un ordinateur.
En fait, j'ai pas envie. J'ai pas d'ordi à moi, c'est l'ordi de ma femme.
Ouais, c'est drôle. En plus, pour la petite histoire, quand je t'ai contactée, j'avais vu un article sur le Courrier Vendéen.
Ouais.
Donc j'ai tapé ton nom, je t'ai trouvé sur LinkedIn. J'ai vu que t'avais été dans l'informatique.
Ouais.
Je me suis dit, il va me répondre... Rien. Donc je me suis dit, mais comment je vais faire? Je t'ai contacté sur Messenger. Je crois que ça a mis, quasiment un mois avant que tu me répondes.
Oui, jusqu'à ce que je regarde mes notes.
C'est ça.
C'est dire si j'ai décroché. En fait, quand je me... Tu sais, quand tu fais une bascule, un choix de vie comme ça, moi, je me suis senti obligé de couper vraiment les ponts. C'est comme quand tu prends une décision difficile, je sais pas de comparatif, mais je me dis si... Non, je veux pas de comparatif. Je me dis, si je voulais quitter quelqu'un, je pense pas à ma femme en disant ça. Mais je me dis, non, tu vas pas rester collé avec tout le temps, tu vois.
T'as besoin de faire table rase, quoi, redémarrer.
Ouais, c'est un très mauvais exemple parce que je suis convaincu que je resterai très copain. mais non, j'ai eu besoin vraiment de couper. C'est pas un dégoût parce que c'était quand même un métier où j'ai vraiment pris du plaisir. En fait, il y a un moment où tu fais le choix de dire stop à tout ça. Et du jour au lendemain, j'ai découvert autre chose, un autre rythme de vie. Et moi, les notifs, les téléphones, c'était plus compatible avec ça. Je garde un smartphone parce que sans Google Maps, je suis perdu. Mais c'est tout. Si je pouvais plus avoir de téléphone, je ferais quoi. J'ai l'impression que c'est une charge d'informatique. On me demande de faire un email. Je déteste ça maintenant. En fait, l'écran dans les yeux, quand t'as découvert qu'on peut voir jusqu'à l'horizon. Mais dans le métier, tu vois vraiment l'horizon. Tu peux pas voir techniquement plus loin que ça.
Quoi. Ouais, c'est clair.
Et même la Vendée, hein, tout le marais là, c'est tellement plat. Moi j'adore. Je me suis dit. Mes yeux sont sûrement jamais autant été parallèles. Tu sais, parce que quand tu fais focus sur quelque chose, tes yeux ils te resserrent. Pas jusqu'à loucher en regardant son nez. Mais pendant 20 ans, j'ai regardé un écran. Et pour une fois, tu te dis, tu peux pas voir plus loin. Là, mes yeux ils ont leur position normale.
C'est quoi la suite pour la Saline des Châteaux?
Du retard. Du retard parce que je dois reconstruire 5 cahiers que j'ai pas eu le temps de finir. On avait un objectif ambitieux qui était la construction de 12 cahiers sur l'hiver. On les a tenus, mais la saline en contient 17, donc j'ai 5 cahiers à construire encore. C'est indispensable parce que tourner avec 12 cahiers financièrement, je vais mettre ma famille en péril.
Okay.
Ça. Et puis pour l'année d'après, du coup, une fois que tout ça sera un petit peu plus posé. Bah, refaire une seconde, continuer à grandir. Pour deux choses, c'est parce que je trouve ça tellement génial d'avoir une vraie exploitation. Puis c'est, la construction, c'est une période que j'ai adorée. C'est aussi faire perdurer un savoir. Bah, du coup, j'ai envie de continuer à entretenir ce savoir que j'ai appris. Et puis ce sont des gestes ancestraux, pour reprendre l'expression. Ce sont des vrais anciens gestes qui risquent de se perdre. Et puis ce sont des salines qui se perdent aussi, des salines qui se végétalisent, plus possible.
Oui, donc au-delà du produit du sel, il y a l'histoire autour d'une saline.
Quand je suis tombé amoureux de Marmoutier, c'est du patrimoine naturel qu'il y a ici, autant que de la beauté du lieu. C'est... Là, les salines, celles que j'ai, c'est vraiment traditionnelle noirmoutrine, elle est longue. Elle est à la noirmoutrine, et ça me tenait à cœur de refaire vivre ce morceau qui, pour moi, est un morceau important du patrimoine, du patrimoine local. Oui. Surtout qu'elle est refaite à l'identique. On ne s'est pas amusé à changer les plans. J'ai refait les plans d'après les photos de la Deuxième Guerre, les photos aériennes des années 50-60, où on voit comment elle était à l'époque. Et au centimètre près, elle est identique. Et elle était sûrement comme ça quand elle a été construite il y a 500, 600 ans. Enfin, du coup, c'est faire vivre ça, garder les mêmes gestes, la refaire aussi à la main, le mouvement de machine. Donc la prochaine, même si je peux le faire autrement, je le ferai avec ma boyette et mes bottes. Parce que c'est génial de construire quelque chose de ses mains.
Trop bien. Bon, on invite tous les gens à aller te voir à partir de cet été.
Ouais, exactement, sur Champoux.
Sur Champoux.
Souvent, beaucoup, comme pas mal de Céline. Moi, c'est ça, il y a un petit bonheur avec un cœur dessiné.
Voilà. Et puis, je mettrai les réseaux sociaux, tout ça, dans la description du podcast. Pour terminer, est-ce que tu aurais une phrase qui représenterait pour toi la vision de la vie, une sorte de devise ?
C'est accepter les gens tels qu'ils sont. C'est comme ça qu'on en tire le meilleur, mais qu'on reçoit le meilleur des gens. Je me suis rendu compte avec le temps qu'il faut pas essayer de modeler les gens. C'est en essayant de changer les choses soi-même qu'on se confronte, qu'on est à contre-courant, qu'on doit lutter. Et quand tu acceptes principalement les gens, les situations, tu te dis, ce type-là, il a peut-être fait des choses pas sympas, mais il me veut peut-être du bien, tu vois. Ou en tout cas, dans ce moment-là, on a des choses à apprendre de chacun. Et Bruno l'a fait en ayant confiance avec moi, je venais d'un autre monde. C'est comme ça qu'on arrive à faire des choses, accepter les gens et...
C'est ce qui t'a ouvert des portes en tout cas.
Ouais.
Bon, bah super, merci.
Merci à toi.
Un grand merci à Guillaume pour son partage sincère et généreux. J'espère que cet épisode vous aura inspiré et encouragé à ouvrir le champ des possibles. Pour retrouver Guillaume et Mathilde, je vous invite à vous abonner à leur page Instagram @salinedeschâteaux ou à les suivre sur leur page Facebook qui porte le même nom. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à traverser le pont de Noirmoutier ou à passer par le bois pour rejoindre la route de Champouroux dans la commune de Lépine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur ma page Instagram @projet-emoi. D'ailleurs, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me taguer en story. Et si vous aussi, vous voulez prendre votre nouveau départ, mais que vous ne savez pas par quoi commencer, je vous invite à prendre rendez-vous directement avec moi sur mon site internet projetemoi.fr. Allez, à très vite pour un nouvel épisode.